je le présente maintenant, le conférencier de ce soir. Il va nous parler d'un sujet qui est mystérieux, donc il va nous faire découvrir, puisque le concept d'un politique correspond pas réellement à une expression courante en français. Mais c'est bien pour cela que j'ai estimé important d'inviter Roberto Esposito. Roberto Esposito est né en 1960. Il a une maîtrise et un doctorat de philosophie. Il a été d'abord maître assistant, puis professeur ordinaire. Il est d'histoire des doctrines politiques à la faculté des sciences politiques de l'Institut oriental de Naples. Et il est aussi professeur de philosophie morale auprès de l'Institut Suor Orsola Benin Casa de Naples. Sa spécialité, c'est la philosophie politique et morale. Il parle français, et je le remercie de nous avoir, de faire l'effort, parce que nous avons essayé, pas trop, mais vous verrez, nous avons essayé d'ouvrir ces conférences aussi au monde francophone, mais c'est toujours difficile de trouver des personnes qui veuillent bien subir cette épreuve. Et je le remercie de l'avoir fait. J'ai oublié de dire qu'il est membre du comité scientifique du Collège international de philosophie. Donc il participe aux activités du Collège international de philosophie. Alors quelques indications sur ses publications. Il dirige des collections éditoriales en Italie et il est co-directeur de la revue Philosophia Politica et conseiller pour la philosophie de la revue Micromega. Bon, je vous passe ça. Il est l'auteur de L'origine della politica, 1996, à Rome. Catégorie dell'impolitico, c'est pour ce livre que je l'ai invité. Catégorie de l'impolitique, publié aux éditions Il Mulino. Ça, c'est la réédition 1999, parce que c'est paru avant. Hein. Et ça a été traduit en espagnol. Confines de lo politico, c'est un autre ouvrage, pardon. Confines de lo politico, qui a été traduit en espagnol. Et un ouvrage, Communitas, publié en 98 à Turin, chez Einaudi, et qui a été traduit en français. C'est le seul que vous puissiez trouver en français pour le moment, sous le titre Communitas, origine et destin de la communauté. Aux presses universitaires de France, il est paru cette année même. Et c'est celui auquel vous pourrez vous rapporter après la conférence. J'espère que les catégories de l'impolitique seront bientôt traduites en français. Voilà, je vais lui passer la parole.
Bon, je vous remercie tous à partir de M. Yves Michaud et de ceux qui ont rendu possible cette rencontre. Excusez-moi d'avance pour mon français qui m'oblige à lire ce texte qui, comme vous savez, s'intitule « Réflexion sur l'impolitique ». Et qu'est-ce que l'impolitique ? Comment ce terme que j'ai placé au centre de ma réflexion depuis quelques années et où nous mène-t-il ? Avant de tenter de répondre à ces questions, au mieux peut-être, avant de les formuler de manière différente, je voudrais partir d'une considération plus générale, soit de la difficulté croissante du langage à donner un sens à la politique, du mur d'incompréhension qui semble s'être élevé entre politique et langage. C'est comme si la politique s'est soustrayée au langage ou comme si le langage n'avait plus de mots pour nommer la politique. Déjà dans les années 30, Simone Weil, la grande philosophe française, comme vous savez, écrivait « On peut prendre presque tous les termes, toutes les expressions de notre vocabulaire politique et les ouvrir. Au centre, on trouvera le vide. » Et pourquoi est de cette époque cette sensation de vide ? Ce véritable assèchement du vocabulaire politique, cette aphasie progressive et apparemment irrépressible qui nous saisit et nous désoriente de plus en plus. Naturellement, on pourrait invoquer les transformations subites qui ont bouleversé la scène internationale ces 10 dernières années, rendant inutilisables les catégories politiques précédentes. Mais je crois qu'il y a quelque chose de plus derrière et dans cette crise du langage politique. Une dynamique plus ancienne qui, en dernière analyse, se rattache à toute la philosophie politique moderne, à ce que l'on pourrait appeler son caractère constitutivement métaphysique. Qu'est-ce que j'entends par cette expression métaphysique ? Sans pouvoir ici trop approfondir le discours, lorsque je parle du caractère métaphysique de la philosophie politique, je me réfère à sa tendance à identifier le sens des grands mots de la tradition avec leur signification manifeste. C'est comme si la philosophie politique s'est limitée à une approche frontale, directe des catégories de la politique, comme si elle était incapable de les questionner de manière oblique, indirecte, de les prendre à revers, de parvenir à leur arrière-fond, à l'espace de leur pensée. Eh bien, tout concept politique comprend une part éclairée, immédiatement visible, mais également une zone d'obscurité, un cône d'ombre duquel cette lumière n'est jaillie que par contraste. Or, on peut dire que la réflexion politique contemporaine, éblouie par cette lumière, perd complètement de vue la zone d'ombre qui entoure ou coupe les concepts politiques, constituant justement leur horizon de sens qui, par conséquent, ne coïncide pas du tout avec leur signification manifeste. Car, tandis que la signification manifeste des concepts politiques est toujours univoque, monolinéaire, conclue en soi, leur sens est bien plus complexe, souvent contradictoire, pouvant embrasser des éléments antinomiques en contraposition les uns avec les autres. Si nous y réfléchissons un instant, tous les grands mots de notre tradition politique, démocratie, pouvoir, souveraineté, procentent dans leur fond ou à leur origine ces noyaux antinomiques, apolitiques, connaissant ce conflit interne pour la définition dernière de leur sens. C'est exactement cela que la perspective de l'homme politique essaie de cuire. De quelle manière et dans quelle intention ? De quelle manière et dans quelle intention ? S'il est difficile et même impossible de définir l'homme politique en positif, d'en donner une définition affirmative qui finirait nécessairement par le renverser en son contraire, in une catégorie de la politique, ce que l'on peut en dire tout de suite, c'est ce qu'il n'est pas. L'homme politique n'est pas une idéologie de la politique, car il en déconstruit toutes les oppositions traditionnelles de type spatial et temporel, à commencer par celle entre droite et gauche, conservatisme et progrès, réaction et révolution. Mais l'homme politique n'est pas non plus une science de la politique se voulant neutre, dans la mesure où il ne voit dans cette prétendue neutralité qu'une autre idéologie tout aussi illusoire que les autres. Enfin, l'homme politique n'est pas une philosophie de la politique, car il conteste toute relation fonctionnelle, instrumentale entre philosophie et politique, qu'elle soit entendue comme conditionnement de la philosophie par une politique donnée ou comme direction de la politique par une philosophie donnée. Plus encore, il reconnaît dans ce double court-circuit idéologique la racine même des plus grandes catastrophes de ce siècle. Avoir placé l'espoir d'une palingénésie totale du genre humain dans la politique et l'avoir conçu donc comme un projet de salut collectif a été une erreur tragique. Une erreur qui a marqué toute l'histoire contemporaine et qui, plus particulièrement à la moitié de ce siècle, s'est achevée en une épouvantable catastrophe. Mais si l'homme politique évite d'assigner à la politique une mission salvatrice qu'elle ne peut remplir sans exploser en une forme de violence terrible, il ne choisit pas non plus la voie opposée, les biais faciles de l'antipolitique, du refus de la politique au nom des valeurs que celle-ci aurait détruites. De ce point de vue, la perspective en politique où je me place présente une nette différence de l'usage qui est fait de ce terme dans les fameuses Betrachtungen eines Rumpolitischen, considération dans en politique de Thomas Mann, qui, à la politique, opposait précisément les valeurs de la grande culture européenne que la première aurait détruite. L'homme politique dont je parle est au contraire bien loin de tous les discours apolitiques ou antipolitiques actuellement en cours en Europe et aux États-Unis. Et cela également parce que lorsqu'on oppose une chose à une autre, quand bien même ce serait une attitude antipolitique, on finit inévitablement par retomber dans ce langage conflictuel typique du logos politique, comme le reconnaît d'ailleurs Thomas Mann lui-même lorsqu'il écrit que, je cite, « l'antipolitique est elle aussi une politique, car la politique est une force terrible, il suffit simplement de savoir qu'elle existe et l'on est déjà dedans. On a perdu pour toujours son innocence. » Eh bien, c'est cette conscience, à la fois réaliste et critique, qui délimite la position de l'homme politique. Il sait, l'homme politique, que, de toute façon, on ne sort pas de la politique, qu'il n'existe pas de réalité extérieure au conflit de pouvoir et d'intérêts qui gouverne l'univers politique. Mais, en même temps, il n'en fait pas l'apologie. Il ne lui attribue aucune valeur absolue, aucune fonction théologique, aucune perspective de rédemption. Plus encore, il déconstruit son langage même, au sens où il ne se reconnaît dans aucune des fausses oppositions qu'a construite la tradition philosophico-politique moderne pour recouvrir son vide de pensée. C'est ce recul perspectif, cette distance catégorielle par rapport à toutes les idéologies politiques, mais aussi par rapport à la science politique actuelle qui donne au point de vue de l'homme politique la capacité de mieux pénétrer les contradictions des grands concepts et par conséquent celle de la réalité politique elle-même, en remontant à la source, à l'origine, à la fois étymologique, historique et philosophique du sens des mots déterminant de la politique, le regard en politique libère leur dimension cachée, permettant ainsi une interprétation différente de notre monde. Je voudrais illustrer ce que vient d'être dit par deux exemples portant sur les deux termes, je dirais, que l'on retrouve peut-être le plus constamment au centre du débat philosophique et politique international, à savoir ceux de communauté et de liberté. Je choisis ce terme parce que j'ai l'impression qu'ils sont tous deux soumis à un renversement et même, dirais-je, à un véritable bouleversement interprétatif qui concerne non seulement la théorie, mais aussi, comme toujours en ces cas, la réalité politique effective. Partons du premier, de l'idée et de la pratique, bien entendu, des communautés. Comme j'ai cherché à le démontrer dans le livre que M. Michaud a cité avant, Communitas, bien le concept de communauté est la proie d'un singulier paradoxe qui concerne presque toutes ces formulations philosophiques, dès la sociologie allemande de la fin du XIXe siècle au néocommunitarisme américain et jusqu'à toutes les diverses éthiques de la communication. Je pense à Apple, Habermas. De quoi s'agit-il? Quel est ce paradoxe qui efface le sens originel du concept en l'inversant en son contraire? Je parle de la tendance à décliner l'idée de communauté et de commun en termes de propriété et de propre. Décliner l'idée de communauté et de commun en termes de propriété et de propre. De ce point de vue dominant, je le répète, non seulement dans les différentes théories, mais aussi dans les pratiques communautaires effectives, la communauté est entendue comme une propriété copartagée par des sujets, par des individus déterminés. Que cette propriété soit relative à un territoire, à une religion ou à une ethnie, le présupposé de départ ne change pas. Est considéré comme commun, ce qui est propre à un certain groupe de personnes et non à un autre. La communauté est interprétée et pratiquée comme une appartenance, une identité, une propriété collective. Or, il suffit d'ouvrir n'importe quel dictionnaire pour constater qu'un tel présupposé comporte une inversion d'ordre logique dont souvent on n'est pas conscient. D'après les dictionnaires de toutes les langues modernes, anglais, allemand, français, italien, commun est exactement le contraire de propre. Comment est le contraire de propre? Et commun, c'est qui n'est propre à personne parce qu'il est à tous, ou du moins au plus grand nombre. Et commun, non pas ce qui est privé et particulier, mais ce qui est public et général, et même tendanciellement universel. Ce qui, par conséquent, n'a pas à voir avec l'identité, mais au contraire avec l'altérité. Si l'on remonte ensuite à l'origine étymologique du mot « communauté », c'est-à-dire au terme latin « communitas », les choses deviennent encore plus claires. Communitas dérive à son tour du terme munus, qui en latin signifie à la fois un don, une obligation, un office que l'on doit accomplir en faveur d'un autre. Cela veut dire que ce qui est à l'origine de l'idée de communauté, ce n'est pas du tout une propriété ou une appartenance commune, mais au contraire, quelque chose qui nous oblige envers les autres, non pas donc une appropriation, mais bien plutôt une expropriation, une altération. Non pas en avoir, mais une dette, non pas une identité, mais une altération, justement. Quelque chose qui nous pousse non pas à nous enfermer en nous-mêmes, mais plutôt à déborder et sortir de notre intérêt particulier, à ouvrir les frontières qui limitent notre expérience personnelle ou de groupe, comment dire, à nous contaminer sans cesse au contact de ce qui est différent de nous. En somme, ce que le regard en politique nous révèle, de par sa capacité, justement, à aller au-delà de liens communs, des traditions établies, des significations acquises, c'est justement que la communauté ne doit pas être pensée comme, disons, un grand corps en lequel les individus se fondent en individus plus grands ou plus puissants. Pourtant, c'est justement ce qu'ont toujours fait et font encore tous les communautarismes, anciens ou modernes, et cela même lorsqu'ils croient, lorsqu'ils disent de s'opposer à l'individualisme, sans s'apercevoir qu'ils font usage de la catégorie même d'individu, c'est-à-dire de sujet individu. C'est ça que voulait dire individu, sujet individu, appliqué cette fois non plus à l'être singulier, mais au groupe social, ethnique, linguistique ou religieux, hein? Entendu comme encore plus grand, mais individuel. Mais la communauté ne doit pas non plus, si l'on veut rester cohérent avec son sens en politique originelle, l'idée de communitas, ne doit pas non plus être entendue comme la reconnaissance réciproque des sujets semblables se mirant les uns dans les autres à la recherche d'une identité ou d'une appartenance commune, ce que la philosophie nomme intersubjectivité, hein, n'est-ce pas? Car être en commun devrait signifier avoir continuellement affaire non pas à celui qui nous ressemble ou nous appartient, proximus on dit en latin, mais à celui qui est différent de nous, à celui qui est différent de nous, non pas à celui qui est immédiatement reconnaissable parce qu'il nous est en quelque sorte familier, à notre frère, mais à celui qui initialement nous est extérieur et étranger aussi. Bref, d'un point de vue en politique, qui renverse toute la logique commun, du sens commun de la communauté. D'un point de vue en politique, la communauté est véritablement telle seulement si elle est communauté des dissemblables, si elle implique la possibilité et certes aussi le risque, parce qu'il y a un risque en tout ça, la possibilité et le risque de la différence, de l'altération, du contact avec qui n'est pas de nôtre, avec qui ne nous ressemble pas, avec qui ne fait pas déjà partie de nous. Or, c'est précisément contre ce risque de contact et donc de contagion. Hein, il y a un lien entre contact et contagion au sens médical, biologique du terme. Contre ce risque de contact avec le divers, contre ce danger d'altération et de transformation de notre identité, que la philosophie moderne, mais aussi l'histoire moderne, devrait-on dire, a mis en œuvre un grand mécanisme immunitaire, je dis immunitaire de défense. Si nous nous souvenons que, comme nous l'enseigne également dans ce cas l'étymologie, l'immunité est, d'un point de vue logique, le contraire de la communauté, communitas versus immunitas. C'est le contraire. Que l'immunité est ce qui nous décharge de notre munus commun, de l'obligation réciproque vis-à-vis l'autre, alors nous nous rendons compte à quel point toute notre expérience s'est construite dans l'opposition explicite à la sémantique communautaire. L'écrivain allemand Elias Canetti, que peut-être vous connaissez, rappelle dans Masse et pouvoir, dans son œuvre Masse et pouvoir, rappelle combien nous sommes tous très épouvantés par un contact inattendu avec les autres. Il suffit de penser, il dit, il note, il observe, au sursaut que nous avons lorsque, par erreur, nous sommes effleurés par une personne que nous ne connaissons pas. Cela arrive parce qu'à cet instant, nous sentons que sont dangereusement franchies les frontières que nous entourent, que nous protègent, qui préservent notre identité personnelle. Monsieur Michaud travaille sur l'identité. Je ne sais pas si je dis quelque chose qu'il a étudié, qu'il intéresse. Les frontières qui nous protègent, qui préservent notre identité personnelle et donc nous immunisent à l'égard des autres. Pour se faire une idée de la montée progressive de cette exigence de protection, d'immunisation, il suffit de penser au rôle qu'est l'immunologie, c'est-à-dire la science chargée de la découverte ou de la construction d'un système immunitaire à assumer non seulement du point de vue médical, non, mais aussi social, juridique, éthique, politique, bien sûr. En somme, elle, la catégorie d'immunisation, non, je parle de ça, elle est devenue le front symbolique et réel autour duquel s'est organisée toute la bataille moderne pour la conservation et le prolongement de la vie humaine. Si l'on passe du domaine des maladies infectieuses à celui de l'immigration, attention, domaine lié au premier par un ensemble de rapports explicites et implicites, alors immédiatement apparaît le point décisif. Le fait que le flux de l'immigration soit considéré unanimement dans tous les pays, dans tous les sondages, depuis, disons, la réduction du risque de la bombe atomique comme représentant les plus grands dangers pour nos sociétés, confirme combien nous nous sommes éloignés de l'idée originaire de communauté. Si la communauté, au sens originaire, en politique, que je dis, si la communauté, la communitas, je dirais mieux, implique dans son sens en politique la rupture des barrières protectrices de l'identité, l'immunisation, ce système immunitaire à laquelle nous sommes constamment soumis, et la tentative de les reconstruire, ces barrières, cette barrière, sous une forme défensive et offensive contre tout élément externe susceptible de la mettre en danger, de mettre en danger cette identité. Bien, alors, la thèse que je cherche à développer depuis quelque temps, c'est le sujet de mon prochain livre, est que ce processus d'immunisation investit progressivement tous les secteurs, tous les systèmes, tous les langages de la société moderne, voire qu'il finit même par plier à sa logique jusqu'aux grandes catégories de la politique. Nous avons vu comment cela se passe pour l'idée des communautés. Il advient aussi, je pense, quelque chose de semblable à l'idée de liberté. À l'idée de liberté. En quel sens? En quel sens l'idée et la pratique moderne, la pratique contemporaine de la liberté expérimente-t-elle le même processus de rétrécissement, la même fermeture déjà subie par la catégorie de communauté, la même immunisation, je dis encore. Pour répondre à cette question, il faut encore une fois revenir au sens originel implicite du terme « liberté ». Il en ressort qu'à l'origine de l'idée de liberté, il se trouve quelque chose qui justement la rattache à la sémantique de la communauté. En fait, comme l'a démontré le grand linguiste Émile Benveniste, mais pas seulement lui, la racine indo-européenne « leut » ou « leud » dont dérive le terme grec « eleutheria » « liberté » et le terme latin « libertas » de même que la racine sanscrite « fria » dont provient l'anglais « freedom » et l'allemand « freiheit » renvoient tous deux à quelque chose qui a à voir avec une croissance commune, avec un développement collectif, l'idée de communauté. Ceci est d'ailleurs confirmé par la double chaîne sémantique qui dérive de ses racines, soit la chaîne de l'amour d'une part, hein, pensez au terme « libe »,« lif », »,« lave », mais pensez aussi au terme « libet » et « libido », évidemment lié à « libre », comme a été prouvé par les linguistes, et la chaîne de l'amitié, d'autre part, « friend »,« freund », évidemment lié Frei, fruit. Hein? Ces séries de mots attestent tous deux, sans doute, sans aucun doute possible, la connotation originellement communautaire de la liberté, de l'idée de liberté. Dans son sens étymologique, la liberté renvoyée à une puissance de connexion, d'agrégation, de mise en commun, à une racine commune qui se développe et croît selon sa loi interne. Aussi, encore en Platon, c'est comme ça. Une racine commune qui se développe et croît selon sa loi interne. Elle était donc conçue comme quelque chose qui met en rapport la liberté, comme quelque chose qui met en rapport, qui met en relation. Exactement le contraire de l'autonomie et de l'autosuffisance individuelle auxquelles nous avons aujourd'hui l'habitude de l'assimiler. En somme, l'essence originelle de la liberté n'est pas du tout négatif, comme on dit, la liberté négative. Il n'a rien à voir avec une simple absence d'obstacle à la volonté de l'individu. La signification moderne de la liberté, c'est ça, après Hobbes. C'est au contraire un sens puissamment affirmatif à l'origine de l'idée de liberté, qui renvoie à une expansion, je dirais, à une floration. Il y a cette idée de cette métaphore végétale dans l'idée ancienne de liberté, à une floration, à une anéchoissement qui est commun et qui met en commun. Et toutefois, ceci, le processus d'immunisation qui arrive, cette ouverture initiale de l'idée de liberté que seule une perspective en politique peut appréhender aujourd'hui, en vient très vite à se perdre au profit d'une signification toujours plus restreinte. La libertas romae en constitue déjà une première délimitation juridico-politique. Seuls les citoyens romains sont libres au sens plein. Mais le véritable virage qu'opère le concept en direction de l'immunisation remonte à l'époque médiévale, lorsque la liberté, ou plutôt lorsque les libertés, prennent l'essence d'un droit particulier, d'un privilège, ou justement d'une immunité, immunitatis en latin, franchise en français, je pense, qui dispense des sujets collectifs déterminés, corporations, cités, monastères, d'une obligation commune à tous les autres. Lorsqu'ensuite, à partir de Hobbes et du modèle du droit naturel, la philosophie moderne s'efforcera de tendre l'idée de liberté à tous les individus, elle ne pourra le faire qu'à partir de cet horizon particulariste. La liberté deviendra l'indépendance de l'individu singulier par rapport à tous les autres, ce qui le sauve d'un contact et d'une contagion dangereux avec ce qui est commun, avec l'entière communauté des hommes. À partir de là, suivant toutes les variantes possibles de type monarchique, républicain ou libéral, la liberté sera toujours conçue comme un droit, un bien ou une faculté de l'individu qui la détient, soit grâce à la protection de la loi souveraine, par Hobbes, soit au contraire en le protégeant d'elle, Locke, disons. Le courant républicain à partir de Montesquieu et le courant libéral à partir de Benjamin Constant demeurent l'un comme l'autre à l'intérieur de ce processus que je dis d'immunisation de la liberté. Son identification finale avec la propriété et avec la sûreté de la propriété, non seulement du point de vue libéral, mais aussi de celui du socialisme des libres propriétaires, cette identification finale avec la propriété constituera simplement le dernier stade de son opposition, de l'opposition définitive de la liberté à la sphère de la communauté. À partir de ce moment-là, et aujourd'hui encore, est considéré comme libre celui qui est propriétaire de ce qui lui appartient. La liberté n'apparaît que comme l'effet ou la conséquence de la propriété. Encore une fois, le contraire de la communauté. Est libre celui qui se possède lui-même au point de ne devoir dépendre en rien des autres. Est libre qui ne doit dépendre en rien des autres, qui est extérieur à la communauté, qui est immunisé. Même les conflits apparents entre libéraux, ce que je dis apparent, entre libéraux et communautariens qui dominent le débat américain actuel, s'expriment en fait lui aussi au sein de la même conception immunisée et particulariste de la liberté appliquée par les uns aux individus et par les autres aux petites communautés d'appartenance, les petites patries, arrachées à l'intensité affirmative de son ancienne racine commune. Je conclus, la liberté semble désormais destinée à ne pouvoir être déclinée qu'en négatif, comme non emprise, non contrainte, non communauté, représentée uniquement à partir de ce qui lui fait obstacle. Elle risque de rester sans voix, sans parole. Eh bien, c'est dans ce silence et de ce silence que parle l'homme politique. Aussi, dans le cas de la liberté, comme déjà dans celui de la communauté, la perspective de l'homme politique n'entend pas proposer une nouvelle définition positive. Elle part de la déconstruction critique des définitions actuellement existante selon le sens originel des mots. Comme nous l'avons vu, plus qu'une nouvelle théorie de la politique, l'homme politique est une contre-théorie et également une contre-histoire de la modernité. Non pas, bien entendu, au sens d'une impossible invitation à revenir à ceux qui la précèdent. Il n'y a rien de nostalgique dans la perspective de l'homme politique, mais au sens d'un questionnement radical de son développement et de son issue. À l'époque du silence de la politique, ou de la dépolitisation du langage, c'est la même chose, la perspective de l'homme politique cherche à redonner la parole aux grands concepts politiques en les confrontant avec leur origine et leur destin. Mais l'on pourrait aussi bien dire avec notre origine et notre destin. Merci.
Est-ce qu'on peut définir la politique comme un retour aux sources, aux définitions premières des concepts qui ont été aujourd'hui dévoyés par la politique ?
Oui, c'est une tentative de déconstruction du sens commun des mots de la politique, des conseils de la politique, qui part dans la définition, dans la tentative de définir, de regarder au sens originel des mots. J'ai fait beaucoup d'usage des bonbonistes, mais aussi des autres linguistes qui ont travaillé sur l'origine des mots. Je sais le risque de cette perspective. Je sais le risque qu'a couru, par exemple, Heidegger, qui a toujours et beaucoup travaillé sur l'étymologie. Mais je pense que dans l'étymologie des grands mots, il y a quelque chose qui nous dit quelque chose aujourd'hui, et quelque chose que quelquefois nous ne regardons pas. Et alors, oui, je pense que oui, l'homme politique, la perspective de l'homme politique peut trouver quelque chose dans ce sens original des grands mots de la politique. Oui.
Oui, je voulais vous demander, je ne connais pas du tout votre œuvre, donc je la découvre avec intérêt, si dans votre réflexion vous rencontrez la catégorie de l'éthique. Enfin, il me semble, je pensais plus précisément au sens, je dirais, fondamental, vous pouvez l'entendre Lévinas, par exemple, ou enfin, si on peut dire vite, d'une certaine façon, enfin, pour Lévinas, bon, je dirais, l'homme n'est pas un animal politique, mais est un animal éthique. Hein. Donc à ce moment-là, est-ce qu'il n'y a pas aussi, à partir de ce repositionnement d'une définition possible de l'homme, quelque chose qui rencontre aussi votre réflexion. Moi, il me semble que quand je vous entends, à travers la pensée philosophique de Lévinas, il y a aussi peut-être quelque chose d'impolitique aussi, implicitement dans sa réflexion, vous voyez. Je ne sais pas, je ne connais pas du tout votre travail, alors peut-être que je vise tout à fait à côté, mais...
Oui, merci bien. Oui, je connais bien Lévinas, aussi Ricoeur. Et quand je parle de la communauté comme quelque chose qui a à faire toujours avec les autres, avec l'autre et les visages de l'autre, comme dirait Lévinas, il y a sûrement quelque chose qui lie ma perspective à celle de maître, comme Lévinas, comme Ricoeur. Mais je n'aime pas trop dans Lévinas l'opposition qu'il fait entre éthique et ontologie. Hein? Je pense que, par exemple, un pensée de la communauté, je pense pour la France, par exemple, à Jean-Luc Nancy, à Derrida même, à Blanchot, il y a la tentative, et moi aussi j'essaie de le faire, de croiser, disons, le langage éthique et le langage ontologique. Hein, je parlerai d'une éthique des lettres, hein, ou, disons, d'une éthique pas tout à fait subjective. Disons comme ça, je m'excuse pour mon français, je ne suis pas capable m'exprimer bien, mais je trouve dans Lévinas, dont naturellement je reconnais tout l'intérêt, un danger, disons, un peu de retomber dans un discours trop subjectif. Et je trouve que c'est le croisement entre l'éthique et l'ontologie qui peut nous mettre, nous faire réparer par ce danger.
En posant cette question, je dois être très prudent parce que je fais partie de ceux qui, professionnellement, ont un rapport pratique avec la politique, puisque je suis professeur de sciences politiques et je me sens bien encombré de poser une question là où je sais que le fond de la question est d'ordre philosophique et porte sur le langage. Il reste quand même que il y a une forme de mystère. Que les mots, que les concepts ne renvoient plus au même fondement, qu'il y ait une forme de perversion, de transformation, semble quelque chose qui n'est pas a priori surprenant. Que ce qui a engendré le sens des mots disparaisse, s'atténue, et que les mots se nourrissent d'autres réalités, d'autres contextes, d'autres appropriations me semble quelque chose de relativement acceptable. Ce qui reste mystère, c'est pourquoi utilise-t-on le même mot dont on sait qu'il a changé de sens, dont on perçoit bien qu'il a changé de sens, et pourquoi semble-t-il l'utilise-t-on comme s'il n'avait pas changé de sens. C'est-à-dire, c'est pas seulement que le mot communauté renvoie à des réalités maintenant quasiment contradictoires, c'est qu'on l'utilise toujours conformément à un sens valorisant qui est le sens ancien, même si la réalité auquel il se réfère est différente. Le mot a changé de sens, mais sa valeur antérieure demeure comme une sorte d'alibi ou de précaution. Autrement dit, le mot lui-même s'immunise, si je reprends votre langage, parce qu'il va garder les valeurs positives dont il était, ou l'illusion positive dont il était, qu'il avait à l'origine. Parce qu'on pourrait étendre cela à d'autres termes. Aujourd'hui, quand on parle communément de contrat, nous n'avons pas nécessairement de contrat. Quand nous parlons dans le langage juridique de mandat, pour qualifier toute une série de pratiques politiques, nous n'avons pas, au sens étymologique, le mandat. Quand nous utilisons le mot démocratie, que je suppose que vous auriez pu tout aussi bien mobiliser que le mot communauté, le mot liberté. Comment se fait-il que nous soyons dans cette obligation, plutôt que de chercher un autre mot, de dire mieux les choses, de garder l'ancien sous une forme d'alibi ou de protection ou de garantie? Et est-ce que c'est ça, au fond, la trahison du politique, ou est-ce que c'est ça le fondement du politique que d'opérer cette espèce de trahison de l'étymologie?
Merci. C'est une question que beaucoup de gens me demandent. Et c'est vrai, on pourrait plus facilement changer de mot, ne parler plus de communauté, mais user un autre terme, un autre langage. Mais je pense que le travail philosophique, c'est justement la tâche de repenser le même concept et aussi le même mot dans un réseau différent de propos sémantiques. Communitas, communauté, a une histoire qui a été connotée irréversiblement par un sens particulier. Peut-être démocratie aussi. La démocratie, vous savez très bien, on parle de démocratie à Athènes dans un sens très différent dans lequel on parle aujourd'hui de démocratie. Mais je pense que nous libérer de ce grand mot de la tradition, démocratie, pouvoir, communauté, liberté, il serait, une impoverimento, je dis en italien, nous deviendrions plus pauvres sans ces mots. Et puis, je ne pense pas que changer de mot nous porte directement à la résolution. Le langage, disons, la recherche sur le langage, sur la modification du langage, ne peut pas être séparé par la déconstruction des mêmes termes. C'est ça que me semble. Je travaille dans cette perspective aussi, si je comprends bien le sens de votre question.
Oui, alors je voudrais revenir sur le débat libertarien-communautarien.
Vous avez dit comment
le débat libertarians-communitarians dont vous avez parlé à la fin. Et vous avez dit que tous les deux étaient fondés sur une définition de la liberté qui était erronée. Et bon, si j'ai bien compris, c'est un terme que je découvre et que je trouve très intéressant. Si l'impolitique, c'est une prise de distance par rapport à la définition des termes généralement admise, je voudrais savoir si l'impolitique, c'est un dépassement de ce type de clivage-là, comme le débat que vous avez abordé.
Et du clivage entre quoi ?
Libertarians et communitarians. Ou est-ce que c'est une troisième possibilité ? Alors, si c'est un dépassement, vous sortez complètement du cadre, vous l'avez dit, c'est une prise de distance. Mais dans ce cas-là, comment les gens pourraient se définir ? C'est plutôt l'aspect pratique qui m'intéresse. Comment les gens arriveraient à se définir si c'est quelque chose qui dépasse complètement l'approche traditionnelle ? Et si ce n'est pas un dépassement, si c'est une troisième possibilité, sur quoi elle fonde sa supériorité ? Est-ce qu'elle la fonde sur une supériorité fondée sur la vérité des termes ? Est-ce que c'est un dépassement ou une troisième possibilité pour sortir du pour ou contre des débats politiques traditionnels ?
Oui, merci. Je ne parlerai pas d'un dépassement ou d'un supérement. Quand je fais usage de le mot de construction, je pense à quelque chose qui n'est pas simplement un dépassement, mais aussi qui est un repensement de quelque chose. Les communautaristes et les libéraux, je pense, ils se disputent, disons, mais ils parlent de la même chose. Ils parlent avec les mêmes catégories, les catégories de subjectivité, d'individualité, de corps, seulement que les uns les appliquent à les individus et les autres les appliquent à les communautés. Alors je dis, il y a quelque chose de repensé avant de l'usage qu'ils font aujourd'hui, liberals et communitarians, quelque chose qui nous porte aussi dans le même temps, je dirais, avant et derrière, non ? Derrière, à l'origine, mais aussi avant. Alors, on peut penser, je me demande, la liberté, la communauté, après ce débat entre égaux et entre communautaristes et libéraux. Et oui, je pense que pour dépasser, pour supérer, et on ne doit pas inventer des termes nouveaux, non, des termes nouveaux. Mais c'est important de repenser l'histoire complexe de ces termes, de ces concepts et de ces pratiques pour arriver à une perspective, disons, diverse avec respect en relation à le débat contemporain. C'est ça un peu la tentative que je cherche de faire avec ces perspectives de l'homme politique.
On va prendre encore. Oui, il y a deux questions encore.
Bonsoir.
Bonsoir.
Je voudrais simplement revenir sur le concept politique. Bon, on parle de politique, on parle de trahison, on parle d'idée, d'idéologie. Je voudrais savoir, première question, quelle est la place de la politique aujourd'hui dans la société ? Bon, on est formé d'institutions, d'hommes politiques, de concept, comme disait monsieur, pour une directive par rapport donc, à la vie de tous les jours. Donc ma question est à savoir si la politique s'applique, enfin, peut encore s'appliquer, à moins d'une réforme, à la vie de tous les jours. Parce que, si vous voulez, bon, ben, y a des textes ont été promus, ont été faits, ont été acceptés, pour donc diriger un petit peu notre vie. C'est là où je veux revenir aussi par rapport à l'immunité de l'individu, et donc à savoir où commence sa liberté, où donc finit cette liberté.
Oui, si je comprends bien votre question, vous me demandez s'il y a, comment dire, une application pratique de l'idée d'un politique dans le domaine de la vie politique actuelle et contemporaine. Non, je dirais non si vous pensez à une application directe, à des normes, à des règles. La politique n'est pas une décalogue, disons, de comportement. Non, mais je pense qu'en manière indirecte, ce recul par l'essence commun acquise par les mots de la politique de tous les jours peut nous donner, comment dire, la capacité critique de nous vivre dans la réalité contemporaine, dans les communautés, dans la communauté, d'affronter les grands problèmes de la politique avec une conscience plus, comment dire, plus capace, plus fine, plus capable de connaître les équivoques du langage courant. Et ça, c'est une action politique. Je dirais oui et non. Non, je répète, dans le sens immédiat, direct, mais je trouve que c'est une action, une praxis de pensée qui a quelque chose de politique, qui peut nous dire quelque chose sur la réalité contemporaine et sur notre moyen de, sur notre comportement dans celle-ci.
Oui. Parler de comportement, justement, les comportements sont dictés, entre autres, par les hommes politiques, parce que bon, on a créé des lois, on a voté des lois, on élit des personnes qui doivent nous représenter logiquement. C'est pas toujours le cas, malheureusement. Donc, qu'on le veuille ou non, il y aura toujours un clivage. Bon, on peut parler de droite-gauche, ou centre, ou de n'importe quel parti, mais qu'on le veuille ou non, on est obligé de faire un choix, même si, forcément, c'est pas toujours... Enfin, ça ne représente pas toujours les idées qu'on voudrait qu'elles soient représentées. Donc, le choix,
oui,
s'impose, le choix s'impose par lui-même.
Bien sûr, je pense qu'il fait toujours faire des choix, prendre des décisions, être dans le clivage entre différentes options et faire de différentes options. Je pense que ce clivage ne passe plus par le traditionnel division entre droite et gauche, mais pour la pratique effective. Quand je parle de communauté et d'immunité, je pense, je parle de biologie, je parle de droit, je parle de société, je pense à l'immigration, je pense à toute une rosée de problèmes envers lesquels il faut toujours décider, prendre des décisions aussi personnelles. Public, mais aussi personnel. Et alors, il y a toujours des clivages. Et tous les clivages nous obligent à décider. Mais, disons, je travaille sur le cadre théorique, philosophique, sémantique dans lequel il faut prendre ces décisions. Hein? Et je trouve, je le répète, qu'il y a sûrement un choix politique dans ça. mais un choix politique qui n'est pas peut-être dite avec les vieilles formules de la politique politicienne, comment dire. Je ne sais pas si je réponds.
On va prendre une dernière question, monsieur.
Il fonctionne ? Ouais, c'est... En fait, c'est pour vous dire...
Parlez dans le micro.
Tout à l'heure, vous disiez que à l'origine des mots, il y avait une collusion. Enfin, le terme liberté et communauté était indissociable.
Oui.
Et que maintenant, dans notre conception du terme liberté, c'est le fait de pouvoir se détacher de la communauté, de ne rien devoir à personne, quoi. Mais pourtant, enfin, aujourd'hui, enfin, moi, j'ai pensé tout de suite au conflit israélo-palestinien, puisque on a l'idée de deux communautés qui s'affrontent pour la liberté. Et il n'y a plus du tout l'idée de vouloir vivre ensemble en étant des personnes différentes. C'est-à-dire, pas, on ne revient pas à l'idée de communauté politique où on souhaiterait vivre et accepter ces différences et vivre en communauté. Ici, là, on rejette nos différences, on revient vers des valeurs communes et on se projette vers la liberté. Et enfin, je voulais dire que ça, c'est peut-être un retour aux sources, quoi. Et donc pas une trahison des termes, puisqu'on a l'impression que voilà, le sens profond peut-être revient avec l'actualité.
Oui, vous avez fait très bien rappeler un cas concret et actuel, dramatique, des questions politiques comme le conflit israélo-palestinien. Oui, je pense que dans ce conflit, il y a justement une idée de communauté qui n'est pas la communitas, qui n'a rien d'universalité. Ce sont deux communautés particulières qui s'affrontent. Maintenant, je ne vais pas me prononcer sur les raisons, mais c'est un conflit communautaire immunisant, disons, pour user mon langage. C'est un conflit qui pense la communauté comme quelque chose qui appartient à quelqu'un, à un peuple ou à une race ou à une religion. Et c'est tout dans cette définition de communauté et aussi dans une définition de liberté comme sûreté, respect à l'autre, comme droit, comme appropriation de ses droits. Et alors, peut-être, le conflit entre Israélites et Palestiniens aussi, mais je pense à beaucoup de conflits dans le monde, qu'il y a maintenant dans le monde, peut-être pourrait avoir, je ne dis pas naturellement une solution, mais on pourrait penser différemment si on s'approchait à ce genre de problème avec une idée, une perspective, un langage différent, à penser différemment le droit, le pouvoir, l'État, la communauté, la liberté.
En fait, j'en ai deux, mais je vais essayer d'être assez bref. La première, elle est relative au fait qu'il y ait un mot que vous n'ayez pas prononcé, c'est le mot « État ».
État.
Et d'une certaine façon, est-ce que ça renvoie à la définition que vous proposez de donner de la politique, étant entendu qu'il y a une tradition assez dominante qui consiste à penser que finalement la politique, c'est l'affaire de l'État? Alors qu'on pourrait imaginer qu'il y ait aussi la possibilité de dessiner une définition de la politique qui soit à distance de cet État. Et finalement, en français, la distinction entre le politique et la politique est toujours une énigme qui peut servir à penser cela. La deuxième question, elle a à voir avec un mot que vous avez un peu prononcé, mais peu, c'est le mot d'égalité. Il y a un couple célèbre qui est le couple de liberté-égalité. Est-ce que c'est la même chose pour vous de réfléchir sur le couple liberté-communauté que de réfléchir sur le couple liberté-égalité ?
Oui, ce sont des questions très intéressantes. Pour la première, je n'ai parlé d'État. Je n'ai parlé d'État pour des raisons historiques, parce que maintenant, nous vivons dans un moment historique où l'État semble céder à quelque chose de divers. Je ne sais pas quoi précisément. On parle de globalisation, on parle de mondialisation, quelqu'un parle d'empire, non ? L'État est attaché par, d'une part par ses puissances ultra-étatiques de type financière, économique, technique, et de l'autre part par les revendications ethniques particulières. Alors l'État, c'est dans une phase de transformation et de crise. Et peut-être il n'est pas, disons comme ça, peut-être il n'est pas l'unique sujet de la politique comme pensait Carl Schmitt, disons. Ça, c'est sûr. Il y a un procès de transformation qui fait de l'État un des sujets de la politique et peut-être pas la principale. Sur l'autre question, l'égalité, il y a un essai de Tien Balibar qui s'appelle « L'égalité », qui justement cherche à penser l'entroissement entre liberté et communauté à travers l'idée d'égalité. Je ne l'ai usé pas trop, ce terme d'égalité, parce que dans ma perspective, il y a certainement le problème de l'égalité, mais il y a aussi le problème de la différence. Et alors, l'égalité a été usée dans la tradition, disons, dans la tradition marxiste, comme quelque chose que ne pense pas radicalement la différence. Non? Alors, quand je parle de communauté, disons, comme pluralité, de singularité, je pense, oui, à l'égalité, à l'universalisme de l'égalité, mais comme quelque chose qui n'est pas diverse, qui devrait être la même chose de la différence. On devrait penser une égalité de différence, non ? Ou l'égalité entre la différence. Ça serait peut-être la perspective pour penser cette superposition de communauté et liberté.
Bien, nous allons vous remercier.
Merci. Merci, merci à tous.